Aïe.
En entrant dans le bâtiment, avant même de voir les lapins, on est frappé par un son qui nous est familier.
France Info.
Je mets la radio pour faire un bruit de fond pour les animaux. Comme ils sont en parc, ils retrouvent un comportement naturel.
Voilà, vous allez retrouver ce reportage donc dans une vingtaine
Coucou
de minutes.
Coucou les lapins,
bien sûr, mais vous verrez, c'est un sujet beaucoup plus sérieux
salut,
qu'on ne peut le penser. Voilà, salut, c'est Solène Cressan qui est là, Diane Ferchit évidemment. Pour le Fil Info ce matin, Christine Peña à mes côtés pour la météo. Toute l'équipe de l'info est là pour ce 6-9 qui commence, il est 6h. Et à la une ce matin, Solène Cressan, la solidarité avec Kiev qui s'affiche une nouvelle fois à Londres.
Nouvelle rencontre qui a lieu tout à l'heure avec le président ukrainien et les dirigeants européens, alors qu'aux États-Unis la pression est toujours plus grande autour du plan de paix proposé par Donald Trump. Une reprise timide de l'immobilier en France, mais une reprise, bilan 2025 des notaires que France Info vous révèle ce matin. La rénovation de Notre-Dame de Paris qui continue grâce aux dons de l'incendie. Et puis un pilote humain et fin stratège débarque en Formule 1, Lando Norris, nouveau champion du monde qui met fin à la double domination Hamilton-Verstappen.
Bienvenue et bon réveil sur France Info.
Une nouvelle fois, les Européens vont se montrer unis autour du président ukrainien. Volodymyr Zelensky va s'entretenir avec Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz à Londres tout à l'heure. Les dirigeants français, britanniques, allemands veulent montrer une fois de plus leur solidarité avec l'Ukraine et envoyer un message aux États-Unis qui poussent toujours pour un plan de paix et qui négocient directement avec Moscou. Mais face à eux, Donald Trump s'en prend encore à Volodymyr Zelensky.
Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. C'était le cas il y a quelques heures encore. Cela convient à la Russie. Bien sûr, la Russie préférerait avoir tout le pays, mais je crois que la Russie est satisfaite de cette proposition. En revanche, je ne suis pas sûr que cela convienne à Zelensky.
Mise en garde du président américain lancée face à des journalistes américains. Cette proposition de paix en Ukraine, cette proposition de Donald Trump reste floue est secrète. Elle a fait l'objet de plusieurs réunions à Moscou, mais aussi en Suisse, en Floride. Et la chef de la diplomatie britannique doit à son tour en discuter à Washington avec son homologue américain. C'était justement un accord de paix que Donald Trump avait chapeauté en personne. Il vient, semble-t-il, de voler en éclats entre la Thaïlande et le Cambodge. La Thaïlande vient de mener de nouvelles frappes à la frontière. Les deux pays s'accusent d'avoir violé le cessez-le-feu.
France Info 6h02, une embellie pour l'immobilier ancien.
C'est ce que montre le bilan 2025 des notaires, publié aujourd'hui et que France Info vous révèle. La reprise de l'immobilier en France est timide, Marina Capitel, mais elle donne tout de même une bouffée d'air au marché.
11% de ventes en plus sur un an et c'est en Gironde que ça repart le plus fort, 18% de hausse. Mais la tendance est la même partout, sauf dans la Creuse. Les prix remontent eux aussi pour les maisons et les appartements. Et sur ces derniers, si on fait un top 5 des villes les plus chères, Paris est toujours très loin devant, avec un prix médian de 9 570 euros du mètre carré, suivi par Nice à 4 750 euros, puis Lyon, Bordeaux et Lille, première ville en dessous de 4 000 euros. A l'inverse, le mètre carré le plus abordable de France est à 1 150 euros et il se trouve à Saint-Étienne. Puis on passe la barre des 2 000 au Havre, suivi par Grenoble, Orléans et Reims. Un autre signe de reprise, c'est le temps de détention d'un logement. Il se remet à diminuer après plusieurs années d'allongement. Aujourd'hui, en moyenne, on garde son bien immobilier pendant 12 ans et 5 mois.
Marina Capitaine.
Et l'un des notaires qui a supervisé cette étude, Maître Laurent Rose, est notre invité dans une demi-heure sur France Info.
La grippe aviaire continue de s'étendre en France. Un premier foyer vient d'être détecté dans les Yvelines, tout près de l'Eure-et-Loir. Des mesures de restriction sont mises en place. Demain après-midi sera un moment crucial à l'Assemblée nationale, avec le vote solennel du budget de la Sécurité sociale. Un vote très incertain, même si le volet recettes a été adopté vendredi. Le Premier ministre Sébastien Lecornu y joue en partie son avenir à la tête du gouvernement et la pression vient de son propre camp, Marie Mollet.
Vendredi dernier, dans la nuit, un vote en trompe-l'œil. Le volet recette a bien été adopté, mais uniquement car les députés RN avaient déserté. Cela n'augure de rien, tout est incertain, reconnaît-on dans le camp macroniste, où l'on ne trouve plus personne pour jouer au jeu des pronostics. Les signaux des dernières heures ne sont pas bons. Édouard Philippe, encore, qui assure que le texte n'est pas votable en l'état. Le patron des LR, Bruno Retailleau, qui appelle à voter contre hier. Le RN qui demande la démission de Sébastien Lecornu. Pourtant, que n'a-t-il pas fait pour tenter de trouver une courte majorité ces derniers jours? Une réunion d'urgence à la nuit tombée avec les leaders du bloc central, une note signée de la main du directeur de la Sécurité sociale, des tweets à 3h du matin pour alerter sur la gravité du moment. Alors a-t-il encore quelque chose dans sa manche? Mais oui, un dernier geste pour les écologistes cette fois, pour arracher leur abstention à minima, une hausse des dépenses de santé qui doit encore être discutée demain. Pas sûr que tout cela suffise. Alors s'il échouait, qu'arriverait-il? Sébastien Lecornu a dépêché 3 de ses ministres pour le dire hier sur les plateaux dans les journaux. Il ne démissionnera pas, n'y comptez pas.
Marie Mollet.
Il y a un an, le 8 décembre 2024, la Syrie changeait de régime.
Avec la chute de Bachar el-Assad, la fin d'une dictature de plusieurs décennies après l'offensive éclair du groupe islamiste Ayad Tahrir al-Sham, Bachar el-Assad a toutefois eu le temps de fuir et de se réfugier en Russie. Il vit sous la protection des autorités russes aujourd'hui et dans la plus grande discrétion, Sylvain Tronchet.
Aucune apparition publique, aucune photo, aucune déclaration. Depuis un an, Bachar el-Assad est muet, invisible, reclus. Tout juste sait-on qu'il vit à Moscou parce que les autorités russes l'ont reconnu du bout des lèvres, mais manifestement, l'asile offert par la Russie à l'ex-dictateur syrien s'accompagne d'une clause de silence. Selon plusieurs sources, Bachar el-Assad et sa famille vivraient dans une grande tour d'habitation de grand standing dans le quartier d'affaires de Moscow City. Il était connu depuis plusieurs années que des membres de sa famille avaient acheté plusieurs appartements dans ce complexe. Bachar el-Assad était également soupçonné d'avoir transféré une partie de son immense fortune en Russie, ce qui lui permettrait de vivre très confortablement. Lors de la venue d'Ahmed al-Shara à Moscou en octobre, le nouveau leader syrien a demandé son extradition à Vladimir Poutine. Mais le Kremlin protège son ex-allié tout en tentant de nouer de nouvelles relations avec l'ancien rebelle.
Sylvain Tronchet, au Louvre, à Paris, une assemblée générale intersyndicale doit se réunir tout à l'heure. Après une fuite d'eau qui a endommagé il y a quelques jours plusieurs centaines d'ouvrages de la Bibliothèque des Antiquités égyptiennes, ces revues, documentations scientifiques datent de la fin du 19e, début 20e, elles ne sont pas uniques au monde, mais la CFDT Culture dénonce une situation qui se dégrade depuis trop longtemps, une enquête interne est en cours.
Les travaux se poursuivent à Notre-Dame de Paris.
Un an après la réouverture de la cathédrale entièrement rénovée après l'incendie d'avril 2019, les dons qui ont afflué pour la reconstruire ont été tellement importants que les responsables des travaux peuvent rénover certaines parties du bâtiment qui n'ont pas été détruites par les flammes, Hugo Dewaa.
C'est à l'arrière de Notre-Dame de Paris que de nouveaux échafaudages ont été dressés et que les différents corps de métier continuent leur travail de l'ombre sous les yeux des visiteurs.
Il y en a qui travaillent juste en bas. C'était fermé et on les voyait discrètement qui travaillaient. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient.
Grâce aux 140 millions d'euros qui n'ont pas été dépensés, Philippe Jost, responsable du chantier,
ça bosse,
continue de travailler depuis son bureau, perché à 20 mètres de haut, à l'arrière de la cathédrale.
Nous avons face à nous des travaux en cours. Depuis la réouverture, nous ne sommes pas restés inactifs. Il se trouve qu'au moment de l'incendie, lorsque l'incendie l'a frappé, la cathédrale n'était pas en très bon état. Et donc, il y a d'autres travaux à faire, et notamment sur ce chevet qui est face à nous. Donc nous avons devant nous des grands arcs-boutants ou des échafaudages sont en cours de construction. Quand les pierres sont très abîmées, qu'il manque des bouts aux sculptures, que des arcs-boutants qui ont un rôle structurel important pourraient devenir un peu fragiles, il ne faut pas s'en satisfaire.
Philippe Jost veut aller encore plus loin dans les travaux et pour ça, il vise encore 140 millions d'euros de dons supplémentaires.
Pour que cette cathédrale présente vraiment dans toutes ses parties au monde entier le visage qu'elle a toujours mérité de présenter, il y a du boulot.
Les travaux pourraient alors se prolonger jusqu'en 2032.
Hugo Dewaa. En football, Lorient a battu Lyon à domicile hier soir 1-0 en Ligue 1. Lens reste premier au classement devant Paris et Marseille et Lyon est cinquième.
La Formule 1 a un nouveau roi de la catégorie reine.
Lando Norris, le Britannique, est devenu hier le 35e champion du monde de Formule 1 au Grand Prix d'Abu Dhabi. Lando Norris qui est arrivé 3e de la course remportée par Max Verstappen. Mais il s'impose dans le milieu, lui et son style, Fabrice Abgral.
Il n'est pas le plus charismatique et pas forcément le plus rapide, mais Lando Norris est un fin stratège, comme il l'a prouvé hier malgré la pression de l'enjeu. Il n'a pas cherché à remporter la course, juste la terminer prudemment sur le podium pour s'assurer mathématiquement le titre et ça, sans trembler ni paniquer. C'était propre et efficace, à l'image de ce pilote de 26 ans vainqueur de 7 courses cette saison.
C'est quelqu'un qui a l'air d'être structuré, dans les moments difficiles un peu détaché, le prendre avec philosophie.
L'ex-pilote de F1, Olivier Panis.
C'est un mec qui part, tu peux aller boire le café et manger.
tu sais que s'il n'y a pas de problème de stratégie ou quoi que ce soit, tu peux revenir à l'arrivée, il va être là, quoi.
Lando Norris est pilote McLaren depuis 2019, mais il a dû attendre l'an passé pour remporter à Miami son premier Grand Prix, confirmant un potentiel que McLaren a su exploiter cette saison. L'ex-pilote de F1, Jean Alesi.
Il a aujourd'hui chez McLaren une position tellement évidente dans le sens où on a l'impression que tout est fait pour lui. C'est un peu le golden boy des pilotes anglais. Il est d'une famille aisée, une famille soudée. Papa et une maman qui l'ont accompagné toute sa carrière, ça compte beaucoup.
Le sacre de Lando Norris, c'est la fin d'une double domination, celle d'Hamilton et Verstappen, qui depuis 2017 s'étaient partagés tous les titres mondiaux.
Fabrice Abgral.
Merci Solène Cresson, à tout à l'heure 6h30. Christine Peña, cette météo, nous sommes le 8 décembre, mais on pourrait se croire le 8 avril.
Mais exactement, en tout cas, ça sera printanier dans le sud avec le soleil qui s'impose, cette douceur. Alors il fait froid ce matin, pas de nuages, pas de couverture nuageuse, mais cet après-midi, on ira jusqu'à 20 degrés au pied des Pyrénées quand
20
même.
Degrés.
20 degrés, c'est exceptionnel. Et puis de nouveau, très doux ce matin, surtout sous les nuages et la pluie, entre la Bretagne, mais jusqu'à l'Alsace, le Nord, Paris, on a entre 13 et 14 degrés, parfois 15 vers les Pays de la Loire. Cet après-midi, ce sera à peu près les mêmes températures. 15 à Lille, comme à Paris, à Dijon, à Lyon, c'est très doux. Hein. Mais les pluies continuent, s'attarderont encore entre la Bretagne et les côtes de la Manche.
France Info, première plateforme d'actualité. Source, Médiamétrie.net, Ratings.
Chaque jour, vous êtes 4 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
Merci pour votre confiance.
Une info fiable et vérifiée.
France Info, première plateforme d'actualité.
6h11 sur France Info. Parmi vos rendez-vous dans la prochaine demi-heure, 120 millions d'euros d'amende contre le réseau social X. L'Union européenne déclenche la fureur d'Elon Musk. On vous raconte ça dans le Brief Éco. Avant cela, France Info s'embarque sur une plateforme gazière destinée à réduire notre dépendance à la Russie. Reportage exceptionnel dans 5 minutes. Mais tout de suite, comment le château de Versailles a acheté un bien volé par les nazis.
France Info, 6h-9h. Jérôme Chapuis.
C'est une histoire extraordinaire que vous nous racontez ce matin. Stéphane Père, bonjour.
Bonjour.
Cellule Investigation de Radio France, l'histoire d'un petit carnet de dessins de la main de David, le peintre du sacre de Napoléon, de l'assassinat de Marat, qui fait d'ailleurs l'objet d'une rétrospective événement en ce moment au Louvre, 200 ans après sa mort. Vous nous révélez, Stéphane, que le château de Versailles possède donc une œuvre signée de David et spoliée par les nazis, un carnet rarissime qui contient des esquisses d'une œuvre célèbre de David, le serment du jeu de paume. C'est un descendant du propriétaire qui vous a alerté.
Oui, il y a quelques mois, Joseph découvre par hasard sur Internet que ce carnet fait partie des collections de Versailles. Depuis 1940, cette famille, qui n'est pas juive, croyait l'œuvre à jamais disparue après l'occupation de sa maison dans le Morvan par les nazis. La famille avait signalé le vol de cette œuvre à l'État français. Joseph comprend que le château de Versailles a acheté légalement le carnet juste après la guerre et que depuis, le musée n'a jamais vérifié son origine.
Ma grande surprise, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les moyens de retrouver ces publics. Et moi-même, j'ai fait une recherche sur Internet, j'ai fait le lien. Quand on me dit, et voilà, il y a 100 policiers qui vont rechercher des bijoux du Louvre, on met d'énormes moyens pour récupérer ça. Alors que pour rendre les œuvres spoliées, et il y en a beaucoup au Louvre et dans d'autres musées, je trouve que les moyens sont très très faibles. Oui, j'ai été très très choqué.
Stéphane, le château de Versailles, comme le ministère de la Culture, sont très embarrassés par cette affaire. Ils n'étaient pas au courant et pourtant, la France dispose de moyens pour repérer ces biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Déjà, le ministère a aussitôt reconnu, c'était évident, que le carnet de David correspond bien à l'œuvre déclarée spoliée par la famille de Joseph. Le ministère rappelle que la France et sa mission de restitution des biens spoliés ont mis l'accent, ces dernières années, sur l'identification des œuvres, au passé douteux parmi les collections nationales. À Versailles, 3 conservateurs font ce travail de provenance. Ils n'ont pas examiné ce carnet, exposé au Louvre lors du bicentenaire de la Révolution. Notre enquête rappelle qu'avant d'être acheté par Versailles, le carnet avait été vendu aux enchères à Munich, au cœur du Reich, en pleine guerre mondiale. Cette information, Versailles en disposait, mais pendant plus de 70 ans, cela n'a déclenché aucune alerte. Ce matin, le ministère de la Culture nous annonce que des recherches ont été lancées sur le carnet de David et que les ayants droit vont être contactés.
Stéphane Percellule, investigation de Radio France, enquête à retrouver sur franceinfo.fr.
Il est 6h14 sur France Info, il fait 14 à Deauville.
Et nous embarquons à présent sur une plateforme gazière en mer du Nord. Reportage exceptionnel alors que l'Union européenne envisage d'interdire totalement ses importations de gaz russe dans 2 ans. Comment s'en passer, sachant qu'il représentait encore l'an dernier presque 20% de la consommation européenne. Cela passe par des investissements importants, comme ici, au large du Danemark, gisement exploité par Total Energy. C'est un reportage France Info de Lauriane Delanoë.
Pour rejoindre la plateforme, nous volons 1 heure en hélicoptère au-dessus de la mer du Nord et d'une mer de nuages. Là, dans le soleil levant, Tyra apparaît. C'est un gigantesque assemblage d'acier tout jaune, long de 700 mètres. 5 blocs reliés par des ponts et appuyés sur des piliers plongés dans l'eau. Fleming Maxson est comme le capitaine ici. Le responsable de l'installation offshore nous conduit à ces larges tuyaux qui sortent droit de la mer sous nos pieds.
Ce bruit, c'est le flux de gaz qui remonte dans les tuyaux. Oui, vous entendez le gaz. Vous entendez l'argent. Après avoir extrait le gaz de sous la mer, nous le traitons, puis il est acheminé le long du pont, là-bas, et envoyé dans les pipelines jusqu'à la terre.
Au fil de la visite, dans ce dédale d'escalier métallique, Fleming Maxson enlève ses gants et touche certains tuyaux.
Mettez votre main là, vous sentez ? Ce tuyau est plus chaud, il n'est pas glacé comme tout le reste. C'est parce que ce puits produit en ce moment.
Nous avons foré 86 puits en tout autour de Tyra. Certains ne produisent pas encore.
Précise Alan Thompson qui supervise la production.
Nous les gardons pour plus tard quand les autres déclineront et nous ajouterons de nouveaux puits. Comme ça, notre production restera à 100% pendant plus longtemps.
Alors l'hiver, quand il fait froid, les gars qui travaillent ici enlèvent leurs gants et se réchauffent comme ça.
Ce gaz chauffe aussi un peu les Français et les Européens. La production de Tyra couvre 1% de la consommation européenne. Tout au bout de la plateforme, Fleming Maxson, le capitaine, nous montre le point de départ des 2 gazoducs.
Voici les dernières vannes de la plateforme. Après, le pipeline repose au fond de l'eau sur plus de 200 km jusqu'aux côtes du Danemark. Et celui-là, c'est le gazoduc vers les Pays-Bas. Ce gaz rejoint le réseau européen. Ici, le Danemark peut donc fournir du gaz à toute l'Europe. Je suis fier, nous fournissons ce gaz pour aider l'Europe et réduire les ventes des Russes. Nous pouvons maintenant nous débarrasser d'eux, pas seulement avec Tyra, non, mais nous y contribuons. Et je suis danois, et pour notre économie, c'est très important d'exporter du gaz plutôt que d'en acheter.
Car ces dernières années, le Danemark a importé plus de gaz qu'il n'en produisait. Tyra était à l'arrêt, la plateforme a été complètement reconstruite entre 2019 et 2024, en pleine crise du gaz russe donc. Aujourd'hui, Ole Hansen, le directeur exécutif de Total Energy, en charge de la production et de l'exploration au Danemark, met en avant la souveraineté.
Je pense qu'il vaut mieux produire son propre gaz, et ça a représenté un effort considérable. À nos yeux, Tyra est la pierre angulaire du système énergétique danois. Et elle participe à la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. En plus, elle contribue à la transition. Elle fournit du gaz pendant que le Danemark et l'Union européenne construisent leur nouveau système basé sur l'électricité.
Et la plateforme elle-même s'est électrifiée, souligne le responsable offshore, Fleming Maxson. Depuis les travaux, 3 lourdes turbines à gaz produisent toute son électricité.
Maintenant, toutes nos machines sont électriques. Ça réduit l'impact environnemental. Sur la nouvelle Tyra, nous avons réduit les émissions de CO2 de 30%, c'est comme si on retirait 200 000 Clio des routes chaque année.
Ce qui veut dire que Tyra émet plus que 450 000 petites voitures. Or, le Danemark vise la neutralité carbone. D'ici 2050, dans 25 ans, la production sera interdite sur Tyra et les autres plateformes offshore. Et comme un symbole, au retour, en hélicoptère, nous croisons des éoliennes plantées en mer du Nord.
Reportage France Info, signé Lauriane Delanoë.
France Info, 6h-9h.
Paris à 6h19, l'info en une minute avec Diane Ferschit. À la une ce matin, Donald Trump qui s'en prend à Volodymyr Zelensky.
Le président américain reproche à son homologue ukrainien de n'avoir pas lu le plan de paix proposé par Washington il y a 3 semaines. Il se dit très déçu alors que Volodymyr Zelensky est à Londres aujourd'hui. Nouvelle réunion avec ses alliés européens pour évoquer justement les discussions en cours sur ce plan de paix. 2 médecins jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal de Paris, jugés pour des essais cliniques illégaux près de Poitiers sur près de 400 patients souffrant de maladies neurodégénératives, Alzheimer ou Parkinson. Des essais financés par des dons des malades et qui ont duré pendant 1 an et demi. La France appelle ses ressortissants au Bénin à la plus grande prudence au lendemain d'un coup d'État avorté. Des militaires qui ont tenté de chasser le président du pouvoir, le président béninois, qui assure que la situation est totalement sous contrôle. Elle dit ne pas vouloir continuer à créer de l'addiction. L'ex-joueuse de tennis, Caroline Garcia, refuse 230 000 euros proposés par un sponsor pour son podcast. Ce sponsor, c'était une société de paris sportifs. Une somme considérable, dit-elle, mais elle estime que les paris sont devenus une source de pression, d'abus et de haine dans le sport moderne.
France Info. Le lapin va-t-il prendre le relais du poulet dans nos assiettes? Plus encore qu'une question culinaire, c'est un enjeu de souveraineté. La France est de plus en plus dépendante des importations. Un poulet sur deux vient de l'étranger. Alors que se tiennent aujourd'hui des conférences pour la souveraineté alimentaire autour du marché de Rungis, la filière du lapin fait figure d'exemple. Reportage dans un élevage des Deux-Sèvres, près de Bressuire. Édouard Marguier.
En entrant dans le bâtiment, avant même de voir les lapins, on est frappé par un son qui nous est familier.
France Info.
Bah, je mets la radio pour faire un bruit de fond pour les animaux.
L'éleveur Philippe Fradin a trouvé ce moyen pour limiter le stress de ces 7000 lapins.
Comme ils sont en parc, ils retrouvent un comportement naturel. Donc il suffit qu'il y en ait un qui donne l'alerte et ils courent tous dans tous les sens, quoi. Comme s'ils allaient se cacher dans leur terrier.
Et c'est vrai que lorsqu'on s'approche des animaux, ils font se réfugier vers le fond des enclos. Le lapin est une espèce très sensible aux maladies. C'est pour cette raison qu'en France, l'élevage est hors sol le plus souvent, à l'intérieur d'un bâtiment. Mais plutôt que les traditionnels clapiers, encore très répandus, l'interprofession développe ses parcs.
Et donc, c'est des enclos de 350 lapins. Ils peuvent monter sur les mezzanines, sauter, courir. Ils sont libres totalement de leur mouvement. C'est la profession qui a devancé les normes, qui a fait ça avec une association environnementale. On a défini ce modèle-là, quoi, okay. En essayant de prendre au mieux le bien-être animal.
Les professionnels misent sur ces nouvelles pratiques pour rassurer les consommateurs de plus en plus exigeants sur les techniques d'élevage. Le but étant de stimuler cette petite filière, l'une des rares autosuffisantes en France. Philippe Fradin et ses 600 collègues éleveurs ont produit 24 000 tonnes de viande de lapin l'an dernier.
En France, oui, on arrive à produire ce que nous consommons. Mais on a quand même de très très fortes inquiétudes sur les volumes parce que je vous dis, plus de 50% des éleveurs ont plus de 55 ans. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à trouver des jeunes, dans 6-7 ans, la filière sera encore plus petite.
Et peut-être qu'à terme, il faudra qu'on importe de la viande de lapin ?
Oui, peut-être.
Pour lui, il y a de l'avenir car le lapin est une viande blanche, comme la volaille de plus en plus demandée. Les transformateurs l'ont bien compris en proposant d'autres façons de manger du lapin.
Des filets, des rôtis, on peut le cuisiner facilement à la poêle ou juste au four. Ça redonne un dynamisme à la consommation. Les gens n'ont plus le temps, donc faire un lapin à la cocotte... On ne le fait plus, quoi, parfois.
La France est aujourd'hui le 3e pays producteur de viande de lapin en Europe, derrière l'Espagne et l'Italie.
Et on salue donc les lapins qui écoutent France Info dans les Deux-Sèvres, notamment. Reportage signé Édouard Marguier. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le Brief Éco avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Et on parle ce matin de l'Union européenne qui relance la guerre contre les géants américains du numérique. Bruxelles inflige une amende de 120 millions d'euros au réseau social X, anciennement Twitter, détenu par Elon Musk.
Et oui, alors c'est une première dans le cadre du règlement européen sur les services numériques. Ça n'a rien à voir avec les amendes précédentes concernant Google, notamment pour des raisons concurrentielles. Alors jusqu'à présent, Bruxelles s'était contenté de remontrance ou de mise en garde sur ces services numériques européens. Donc cette fois, c'est sanctions pécuniaires directes. La loi en question, appelée DSA pour Digital Service Act, est entrée en vigueur il y a 2 ans pour lutter contre les contenus en ligne illégaux et dangereux. Elle impose en fait des obligations renforcées aux plus grandes plateformes actives dans l'espace européen.
Alors que reproche exactement la Commission européenne au réseau X ?
Eh bien la sanction porte sur des infractions notifiées l'année dernière. Bruxelles dénonce notamment une tromperie des utilisateurs avec les ces fameux macarons bleus accolés au nom des comptes est censé certifier les sources d'informations. Ce macaron est attribué aux utilisateurs de l'ex-Twitter au terme d'un processus de vérification d'identité pour déjouer les imposteurs. Mais après avoir acheté le réseau, eh bien Elon Musk a réservé ses badges aux abonnés payants, au risque, selon Bruxelles, d'induire en erreur les utilisateurs.
Une première amende de la part de l'Europe, donc, mais aussi un premier signal de fermeté.
Et oui, avec cette sanction financière de 120 millions d'euros, vous le disiez, la Commission européenne adresse en fait un message à l'ensemble des plateformes qui sont susceptibles d'enfreindre notre règlement sur les services numériques.
Et comment réagissent les Américains ?
Alors, écoutez, hier, le patron de X, Elon Musk, n'y est pas allé de main morte en estimant que l'Union européenne devait, je cite, être abolie et que les États devaient retrouver leur souveraineté. Alors l'affaire prend une tournure politique aussi avec une remarque du vice-président J.D. Vance invoquant la censure d'un groupe américain par l'Europe. Bref, du pain béni pour Donald Trump qui a publié à la veille du week-end sa stratégie de sécurité nationale. Dans ce document de 33 pages, Trump parle de l'effacement civilisationnel, je vais y arriver, de l'Union européenne et puis surtout de la volonté de l'Amérique de rester la première puissance mondiale du numérique. Cette amende infligée par Bruxelles au réseau X relance le débat sur les capacités de l'Europe à résister au tigre américain. Mais réaction uniquement pécuniaire, non réellement industrielle, dénoncent certains observateurs.
Emmanuel Cuny.
Il est 6h25 sur France Info, il fait 8 à Montélimar.
Ça se passe au bout du monde et ça nous surprend. Bientôt chez vous tous les jours sur France Info. Et ce matin au Japon, bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
Le Japon, grand pays du dessin animé, se demande comment mieux soigner ces jeunes en dépression. Eh bien, des médecins commencent à tester des thérapies en se faisant passer pour des personnages d'animation.
Oui, on parle maintenant ici de thérapie par l'animé. L'animé, c'est plus que les dessins animés pour enfants. C'est un vrai genre cinématographique avec beaucoup de productions pour adultes qui parlent souvent de sujets graves. Et les médecins pensent que ces fictions qui ont des millions de fans peut être un bon médium pour traiter des jeunes qui hésiteraient, par exemple, à se confier à un médecin humain. C'est un psychiatre italien qui a initié ce projet. Il s'appelle Francesco Panto. Il est installé ici au Japon depuis longtemps. Et il est à l'origine du lancement d'une étude avec une vingtaine de jeunes patients âgés entre 18 et 29 ans.
Mais comment est-ce qu'on se soigne par le biais de l'anime ?
Alors, les psychiatres et les psychologues vont d'abord présenter aux patients 6 personnages d'animés dans des petites fictions. Ils ont été créés par des scénaristes pour l'expérience. Ce sont des hommes, des femmes, d'âge différent. Ils ont tous une histoire propre avec des forces et des faiblesses qui font écho à des souffrances humaines. Ça peut être des problèmes d'identité, des rapports compliqués aux parents ou à l'autorité ou d'autres qui souffrent d'anxiété sociale. Et donc, chaque patient va d'abord sélectionner le personnage auquel il s'identifie le plus. Et ensuite, il va avoir des échange en ligne avec son psychiatre. Mais à l'écran, ce n'est pas l'image du psychiatre qui apparaît, mais celle du personnage d'animé. Le médecin utilise aussi un programme pour changer le son de sa voix. Il demande d'abord au patient de lui parler des fêlures de son personnage préféré. Et ensuite, progressivement, il essaye de lui faire parler de ses propres angoisses. Le médecin espère provoquer une sorte d'identification émotionnelle. Cela doit permettre d'enclencher un dialogue, une thérapie que le patient n'aurait peut-être pas voulu suivre dans un cadre classique.
Et est-ce qu'on sait si ces thérapies par l'animation fonctionnent ?
Alors, l'expérience a commencé en octobre et elle va durer jusqu'à l'été prochain. Chaque patient aura 2 sessions d'une heure par semaine pendant au moins un mois avec son personnage. Et les médecins vont surveiller leur évolution par des questionnaires et puis des tests, par exemple sur leur état mental ou sur l'évolution de la quantité de leur sommeil. Mais Francesco Panto est convaincu que cela va fonctionner et que cela peut être une solution dans plein de pays pour approcher des jeunes patients qui sont en souffrance mais qui ne trouvent pas de soins adaptés.
Merci, c'était Yann Rousseau en direct du Japon. Et la météo.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Vous aussi, vous avez vos cartes animées, Christine oui. Peña, c'est la thérapie par la douceur.
Exactement, cette grande douceur aujourd'hui, particulièrement élevée, ces températures, on les relève dans le nord-ouest jusqu'à l'Île-de-France. Des records de douceur devraient tomber, il fait entre 14 et 15 degrés en ce moment, de 13 à 14 en Île-de-France, mais jusqu'au nord, jusqu'à Calais. Il fait nettement plus froid dans dans le sud où le ciel est dégagé. Alors on a des brouillards juste, et notamment en vallée de la Garonne, mais ça va se lever. L'ambiance sera printanière sur toute la moitié sud avec ce soleil, cette grande douceur qui va s'afficher. Près de 20 degrés près des Pyrénées, c'est vraiment là. Sur le Pays Basque, le Languedoc-Roussillon, également les Pyrénées-Orientales, c'est là où il fera le plus chaud, le plus doux aujourd'hui, mais même au nord, hein, sous les nuages qui resteront assez présents de l'Île-de-France jusqu'à la Manche, avec des pluies un peu plus continues entre la Bretagne et la Normandie qui tarderont à s'évacuer vers la Manche. Nous aurons des températures franchement élevées, hein, entre 15 degrés à Lille, à Reims, à Abbeville, comme à Paris, à Metz, à Dijon, à Lyon et Montélimar, 16 degrés du côté de Mulhouse ou encore de Rennes. Et cette douceur va rester en place encore aujourd'hui. Demain sera très doux aussi. À partir de mercredi, ça va commencer à s'estomper un peu, baisser, mais légèrement. On restera quand même dans une certaine douceur, avec un temps mitigé du soleil, mais toujours ces perturbations.
Merci Christine Peña. Tiens, rendez-vous dans 20 minutes sur France Info. L'armée de l'air lève le voile sur le futur service national volontaire.
Pas de poster, pas de choses personnelles, des douches et WC communs. Et les lits au carré, bien sûr, comme vous
le
voyez.
Le coiffeur, passage chez le coiffeur est prévu le 1er mai.
Voilà, à cette heure-ci, les recrues sont déjà debout depuis une bonne demi-heure. Reportage à suivre à 6h45 pour le moment. Il est 6h30 sur France Info. L'heure d'un nouveau journal, Solène Cressan.
Se montrer unis face au vent contraire venu des États-Unis. Une nouvelle fois cette nuit, Donald Trump s'en est pris au président ukrainien. Il lui reproche de ne pas avoir lu la proposition de paix pour l'Ukraine, qui est négociée directement avec la Russie et jugée favorable à Moscou dans un premier temps. Face à cela, donc, se montrer unis, Volodymyr Zelensky est une nouvelle fois reçu par les dirigeants européens à Londres, tout à l'heure, Jean-Jacques Herry.
Tenter de peser encore et toujours et de se faire entendre dans une négociation et des discussions où leur voix ne semble même plus avoir sa place. C'est à nouveau l'objectif de cette rencontre, alors que depuis 3 semaines et la présentation d'une première version du plan de paix américain, les Européens, comme depuis plusieurs mois, demeurent plutôt observateurs qu'acteurs. Dernière humiliation en date, il y a quelques jours, après leur rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou, les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont finalement annulé une rencontre prévue à Bruxelles avec une délégation ukrainienne, préférant se concentrer sur les discussions qui ont lieu depuis jeudi en Floride entre négociateurs ukrainiens et américains, loin, très loin du vieux continent. Des négociations quasi secrètes dont pas grand-chose ne filtre. C'est dans ce contexte qu'a lieu la rencontre avec des Européens toujours coincés car les Américains restent les maîtres du jeu actuellement sur le dossier ukrainien. Dans ce calendrier diplomatique qui s'accélère, les Européens ne semblent donc pas avoir d'autre choix que d'affirmer à nouveau leur unité, faute de mieux.
Jean-Jacques Herry, et seront présents sur place Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Cette nuit, l'Ukraine accuse la Russie de nouvelles frappes dans le nord du pays. Il y a une dizaine de blessés. Il était venu demander plus d'achats européens en Chine la semaine dernière. De retour en France, Emmanuel Macron assure qu'il a brandi la menace de nouveaux droits de douane à Pékin. Des hausses dans les tout prochains mois pour réduire le déficit, pour pousser la Chine à réduire le déficit commercial de la France et de l'Union européenne, qui ne cesse de se creuser. La France, qui appelle ses ressortissants au Bénin à la plus grande prudence, selon les mots du Quai d'Orsay, alors que les autorités assurent avoir déjoué un coup d'État. Hier, le président du Bénin assure que la situation est totalement sous contrôle. Le bloc ouest-africain de la CEDEAO va envoyer des renforts militaires. Vivre à la campagne accentue les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est le constat de l'étude « Ce que vivent vraiment les femmes rurales » de l'association Rura et de l'Institut Terram, dévoilée ce matin par le réseau Ici, Ex-France Bleu. Si les femmes ont plus de mal à accéder à la propriété, à un emploi stable ou à la santé, ces inégalités de genre s'aggravent en milieu rural, Nicolas Joly, et notamment au sein des couples.
Les couples sont plus nombreux et se forment plus tôt à la campagne qu'en ville. Ce phénomène social est aussi un amortisseur économique pour les femmes. Félix Assouli, l'un des auteurs de l'enquête.
À ce moment-là, parce que le couple va partager et les revenus et les dépenses, on va avoir une amélioration du pouvoir d'achat des femmes. La conséquence de ça, c'est que si un jour les femmes ou les hommes veulent se séparer, ça va avoir des conséquences bien plus lourdes sur les femmes que sur les hommes.
Car les écarts de salaire sont plus forts entre hommes et femmes ruraux et la répartition des dépenses empêche les femmes de bâtir un patrimoine. Salomé Berlioux, co-autrice de l'étude.
Là où les femmes
vont plus facilement et plus largement financer le quotidien. Les hommes vont financer ce qui dure et ce qui peut d'ailleurs se revendre par la suite. On ne peut pas revendre un pot de yaourt là où on peut revendre une maison ou une voiture.
Avoir des enfants creuse aussi les inégalités. Les mères deviennent femmes au foyer, mais pas les hommes.
Ça a des conséquences pour les femmes sur leur autonomie à l'instant T, et sur leur vie, sur leur accès à des loisirs, sur le temps libre dont elles disposent, sur leur quotidien, sur leur avenir, que ce soit dans le cas d'une séparation ou que ce soit dans le cas d'un changement d'emploi.
Les femmes rurales restent aussi plus isolées face à leurs difficultés. 47% des féminicides ont lieu à la campagne, mais un quart seulement des appels au 3919 viennent des zones rurales.
Nicolas Joly, 8 gravures de Matisse viennent d'être dérobées dans une bibliothèque de Sao Paulo au Brésil. Il y avait aussi des gravures du peintre brésilien Cândido Portinari, toutes rassemblées dans le cadre d'une exposition. Ce sont des hommes armés qui s'en sont emparés en violentant la gardienne. Ils sont identifiés et recherchés, assure la police brésilienne. Et puis la fin d'une liaison vieille de plusieurs décennies, le Roissy-Bus va disparaître dès l'année prochaine, le 1er mars. Ce bus qui reliait le centre de Paris à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il sera remplacé par la ligne 14 du métro, jugée plus fiable et plus rapide, même s'il faudra prendre un autre bus depuis Saint-Denis.
Merci, c'était Solène Cressan, les sports. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Jérôme.
L'OGC Nice s'enfonce un peu plus dans la crise.
7e défaite d'affilée hier soir, 1-0 en Ligue 1 face à Angers à domicile dans un stade presque vide, boudé par des clubs de supporters ultra et sous les sifflets. Alain, lui, était là, supporter fidèle depuis 60 ans, mais il est en colère.
J'ai mal pour mon club. Franchement, j'ai mal pour mon club. Faut comprendre aussi que les supporters, moi, je me mets à la place de gens qui se saignent pour faire des déplacements, que ce soit en France ou en Europe. Nous, on veut pas aller en deuxième division. On a connu ça. On veut pas revivre ça. Il y a beaucoup de monde qui devrait quitter ce club.
Au classement, Nice est 12e de la Ligue 1. Toute autre ambiance, pas très loin de là. Marseille au stade Vélodrome, pas de match de l'OM hier soir, mais une soirée de gala avec les anciennes gloires du club, comme Zinedine Zidane. Vous entendez l'ovation des supporters marseillais à Zinedine Zidane, toujours adoré là-bas. 40 000 personnes dans le stade. Il jouait avec Franck Ribéry, Dimitri Payet ou encore Mamadou Niang.
Les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France féminine de handball.
Après 5 matchs et 5 victoires, parcours parfait, les Bleus jouent ce soir face aux Pays-Bas à Rotterdam, l'un des deux pays co-organisateurs de ce mondial. Les deux équipes sont qualifiées pour les quarts de finale, mais celle qui gagnera aura un avantage pour la suite parce qu'elle terminera en tête du groupe, Jean-Pierre Blimeau.
Les handballeuses tricolores ont traversé le début de ce mondial comme dans un rêve, mais ce soir c'est autre chose. L'équipe des Pays-Bas tourne à une moyenne de 35 buts marqués par match, presque autant que les Françaises, dont la moyenne est de 38. Les choses sérieuses commencent, mais pas de panique, estime la demi-centre Clarisse Méro.
C'est toujours un peu compliqué de pouvoir comparer, étant donné qu'on ne joue pas contre les mêmes équipes, les écarts au score, etc., par rapport aux équipes qui sont rencontrées, que ce soit de notre côté ou de leur. Donc on verra quand on jouera contre elles, mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est une équipe qu'on ne prendra pas à la légère et qui est une très bonne équipe.
Dans cette équipe de France privée de 5 puis de 6 championnes du monde en titre. Plusieurs joueuses ont également fait part d'une grande polyvalence. L'exemple le plus parlant, Pauleta Fopa, l'une des meilleures pivots du monde, a également joué demi-centre. Pour la capitaine Tamara Horacek, ce n'est pas étonnant.
Ce n'est pas une surprise. Je pense que l'équipe de France a beaucoup de polyvalence et que les joueuses peuvent s'adapter et jouer à plusieurs postes. Parce que aussi, auparavant, on avait des joueuses qui jouaient plusieurs postes, donc c'est bien. Et je trouve que ça apporte aussi de la diversité dans cette équipe de France.
D'autant plus important que les Françaises vont devoir se passer de grâce à dit l'une des plus expérimentées et des plus titrées des tricolores. Convalescente, elle a définitivement renoncé au Mondial ce week-end.
Jean-Pierre Blimeau. Et puis en ski alpin, nouvelle victoire pour le Suisse Marco Odermatt hier à Beaver Creek aux États-Unis. Il a remporté le slalom géant après avoir remporté la descente jeudi dernier.
Merci Guillaume Batin. On vous retrouve tout à l'heure juste après 7h20.
Avec Lando Norris, nouveau champion du monde de Formule 1. On ne l'oublie pas.
À tout à l'heure. Il est 6h37 sur France Info. Parmi vos rendez-vous dans moins de 10 minutes, la Syrie, un an jour pour jour après la chute du régime. Ils sont plus d'un million à être rentrés dans leur pays. Rencontre avec d'anciens réfugiés, c'est le choix de France Info. Mais tout de suite, l'immobilier serait-il enfin sorti de la crise ?
France Info, 6h-9h, Jérôme Chapuis.
Si ce n'est pas une reprise, ça commence à y ressembler. France Info vous dévoile ce matin en exclusivité le bilan 2025 des notaires de France. Bonjour Maître Laurent Rose.
Bonjour, Jérôme Chapuis.
Vous êtes notaire à Nice et c'est vous qui présentez cette étude tout à l'heure au Conseil national du notariat à Paris. Avant de parler des prix, si on parle de début, de fin de crise, c'est parce qu'on est de nouveau au-dessus du million de ventes sur un an. C'est une hausse assez significative.
Oui, alors non, j'aimerais être aussi optimiste. On est optimiste effectivement avec l'augmentation du nombre de ventes, mais qui n'a pas refranchi le cap du million, puisqu'on constate aujourd'hui un nombre de ventes sur un an glissant qui est de l'ordre de 921 000 et on espère atteindre 930 000 d'ici la fin de l'année.
Et jusqu'à présent, on était quand même beaucoup plus bas, on était autour de 800 000. Et c'est une remontée qui s'amorce depuis quand même par rapport aux chiffres catastrophiques de 2022 notamment.
Oui, alors on était effectivement depuis maintenant plus de deux ans toujours sur un schéma descendant en termes de volume, hein, ce qui entraînait une baisse également des prix. Et on se retrouve après le Covid où on a eu une euphorie post-Covid au niveau du nombre de transactions. On se retrouve aujourd'hui à avoir de nouveau la première année positive avec quasiment plus 11% en nombre de transactions par rapport à 2024.
C'est lié à quoi ?
Bon, c'est lié à plusieurs facteurs. Alors d'abord effectivement par rapport à la baisse des taux d'emprunt bancaire, hein, puisque les taux étaient passés de grosso modo 1% à 3,80%. Ils sont redescendus à 3%, donc ce qui a redonné un peu d'air finalement aux emprunteurs et aux acheteurs. C'est lié également aux économies qui ont été à l'épargne qui a été faite par les Français au cours de ces dernières années et une augmentation corrélative des salaires. Mmh.
Le marché finalement n'est pas trop sensible à tous ces soubresauts, l'instabilité politique.
C'est clair que c'est un marché qui est basé quand même sur la confiance. Un achat immobilier, c'est pas un achat anodin, c'est l'achat pour certains d'une vie. Ça s'inscrit dans la durée d'un prêt. On peut imaginer entre 15, 20, 25 ans. Donc effectivement, avant de franchir le pas, de sauter l'étape, vous réfléchissez à deux fois. Et effectivement, le contexte extérieur joue beaucoup.
Pour l'instant, si on en croit votre étude, l'effet sur les prix de cette reprise encore très très relative, hein, on vous a bien entendu, l'effet sur les prix reste limité.
Alors la reprise, alors effectivement, on boude pas notre plaisir de voir la courbe remonter en termes de nombre de transactions. Simplement, on est toujours en retard de grosso modo 25% par rapport au plus haut dernier qui était post-Covid. Hein, donc les volumes sont là, mais encore timides, on va dire, et on espère qu'ils vont durer. Après, malheureusement, ça induit généralement, et on commence à le voir, une augmentation des prix.
Il y a des villes où la hausse est plus importante qu'ailleurs.
Oui, alors vous avez effectivement des villes qui sont plus en pauvre. Là où les prix montent le plus, vous allez retrouver Dijon, Marseille, Toulon, Reims ou Saint-Étienne. Et à l'opposé de ça, vous retrouvez Bordeaux, Lyon ou Le Havre, avec des hausses, une amplitude de hausse qui va de plus 3% pour Dijon à moins 3,7% pour Bordeaux, si on regarde le prix des appartements.
Et c'est lié à quoi ça ? On l'explique ?
Alors souvent c'est une question de correction, j'allais dire. Hein. Vous avez un marché qui malgré tout s'autorégule. Bien souvent, les villes qui baissent aujourd'hui étaient les villes qui montaient hier, et vice versa. Donc, on peut imaginer, on peut symboliser mentalement une sinusoïde. Et en réalité, la sinusoïde fait que, une fois vous êtes dans le plus, une fois vous êtes dans le moins. Mmh. Et certaines villes, par contre, défient la gravité et ne font que monter.
Ouais. Notamment Paris.
Alors, Paris ne déroge pas à la règle. Mais avec des montées et des descentes qui sont du coup amplifiées, ça peut être le cas également à Bordeaux. des corrections, ce qu'on appelle des variations saisonnières, c'est-à-dire que vous avez des périodes de l'année qui vont être plus propices aux augmentations ou aux baisses.
Une dernière question, Maître Laurent Rose, ça reste très difficile d'acheter aujourd'hui pour les Français, notamment pour les primo-accédants?
Alors oui, alors ça reste effectivement compliqué, puisque globalement, si on fait rétro-pédalage sur de nombreuses années en arrière, l'immobilier est devenu un bien de qui n'est pas un bien de consommation, mais vraiment de placement qui monte dans la durée. Donc ça reste un placement valable et a fortiori pour se loger.
Merci beaucoup, Maître Laurent Rose. Vous êtes notaire à Nice et je renvoie sur franceinfo.fr pour cette étude des notaires de France qui est donc dévoilée ce matin dans un instant sur France Info. Un tour complet de l'actualité.
2486 kilomètres. C'est la distance qui vous sépare des 49 journalistes actuellement détenus en Russie. 1444 kilomètres. C'est la distance qui vous sépare des dizaines de journalistes agressés en Serbie alors qu'ils couvraient des manifestations anti-gouvernement. 0 cm. C'est la distance qui vous sépare des campagnes de désinformation sur votre téléphone. En 40 ans, la menace contre l'information n'a jamais été aussi proche de vous. Aidez-nous à défendre l'information fiable. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières.
France Info, 6h-9h.
Et c'est l'heure de l'info en une minute à 6h44 avec Diane Ferschit. À la une des centaines de familles de Pauillac en Gironde, dans l'angoisse après l'arrestation d'un photographe de la commune.
Il est suspecté d'avoir diffusé des images pédopornographiques trafiquées par l'intelligence artificielle. L'homme était notamment en charge des photos de classe des écoles de Pauillac. Il est mis en examen et placé en détention provisoire. Le ministère de la Culture va mener des recherches après ces révélations que vous rapporte France Info sur une œuvre du peintre Jacques-Louis David, conservée dans les collections du château de Versailles, un carnet de croquis spolié par les nazis qui a été également exposé au Louvre lors du bicentenaire de la Révolution. Nouvelle réunion à Londres, réunion pour la paix en Ukraine. Emmanuel Macron ainsi que les dirigeants britanniques et allemands autour de Volodymyr Zelensky pour évoquer les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine. Le plan de paix proposé par Washington est en train d'être discuté. Un plan de paix que Donald Trump accuse le président ukrainien de n'avoir pas lu. Le bilan des inondations en Indonésie s'alourdit encore ce matin. 950 morts et 5000 blessés selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes. Près de 250 disparus. Au total, la série de tempêtes tropicales sur l'Asie du Sud-Est a fait plus de 1800 morts.
France Info.
Et à 7h moins le quart, voici le choix de France Info.
De grandes festivités sont prévenues toute la journée à Damas. Il y a un an, jour pour jour, le régime de Bachar al-Assad était renversé par l'ancien djihadiste Ahmed al-Shara. 13 ans de guerre ont provoqué l'exil massif de Syriens et ces derniers mois, ils sont plus d'un million à être revenus. Et c'est à eux qu'on s'intéresse ce matin dans le choix de France Info. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Vous avez rencontré ces Syriens qui retrouvent un pays qu'ils ont parfois du mal à reconnaître.
Ici, c'est le salon qui sert de chambre et de tout. Ilham est revenu il y a 2 mois, après 13 années d'exil en Libye.
Quand je suis rentrée, je me suis agenouillée et j'ai remercié Dieu d'être sur la terre de mon pays. C'était indescriptible.
Elle a eu du mal à reconnaître son quartier de la Ghouta orientale, tant les bombardements du régime l'ont défigurée et n'avait pas imaginé que les défis seraient si lourds.
Tout est difficile, tout est très cher. Il faut reconstruire la Syrie, donner du travail aux gens, augmenter les salaires, prendre soin des femmes. Nous espérons que l'avenir sera lumineux. Nous faisons confiance à notre Dieu et à notre président Ahmed al-Shara.
Mais il est trop tôt pour faire rentrer ses enfants de Libye.
Non, pour l'instant, je ne les encourage pas à revenir. Il vaut mieux qu'ils restent là-bas. Au moins, ils ont un travail qui leur permet de manger. Mais ici, ils vont avoir du mal à trouver un travail, un endroit où vivre. Les loyers sont tellement chers. En plus, ils ont chacun une famille.
Bada, lui, est célibataire. Il n'a pas tardé à quitter l'Irak pour rejoindre Hama dans le centre de la Syrie. Il vient d'inaugurer son café.
Maintenant, la Syrie est un pays sûr. C'est un bon endroit pour démarrer mon business. Ça ne prendra pas longtemps, parce qu'on a les bonnes personnes. Les Syriens aiment travailler, aiment construire, ils aiment leur pays. C'est le bon moment pour revenir en Syrie. Mes amis de Damas, de Dera, d'Alep, tous reviennent.
Et Marie-Pierre, on entend l'espoir de ces jeunes, mais beaucoup reviennent aussi parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire une place dans le pays d'accueil.
Oui, c'est le cas des centaines de milliers de Syriens qui ont quitté la Turquie en but au racisme et frappés par la crise économique. Mais d'autres parcours sont encore plus tragiques, comme celui de cette famille que nous avons rencontrée dans les quartiers est d'Alep, chassée par les bombes d'Assad jusqu'au Liban, puis par les bombardements israéliens qui les ont renvoyés dans leur pays. Mais Daria, la mère, nous accueille avec un large sourire.
Je suis très optimiste parce que revenir en Syrie, c'était un rêve. Nous n'en sommes qu'au début. Vous voyez les destructions, mais nous avons de l'espoir. Nos enfants vont grandir dans leur pays. Ce pays a besoin d'énergie et de nouveaux bras pour le redresser. Mais les bras de son peuple, pas ceux d'étrangers.
L'appartement est encore bien vide et glacial, mais tous ont le cœur léger. Le père vient de trouver un poste d'instituteur.
Le bâtiment de l'école avait été détruit, mais une ONG l'a réparé. Maintenant, il y a des salles de classe, on vient de recevoir des pupitres pour les élèves. Depuis la rentrée, ils devaient s'asseoir par terre. Et nous, les professeurs, nous étions debout du matin au soir, nous n'avions pas de chaise.
Quand elle parle du retour à Alep, Fatma, 14 ans, a les yeux qui brillent.
J'ai eu un choc. Vous savez, je ne connaissais rien d'ici. Mes parents nous parlaient beaucoup de la guerre. Je pensais que ce serait totalement détruit. C'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Je suis si heureuse. C'est sûr, mon pays va devenir tellement beau.
Mais sa petite sœur, Zara, née au Liban, en doute. Ses amis, dit-elle, et les magasins lui manquent.
Je pensais qu'on ne resterait pas longtemps ici et qu'on repartirait au Liban, parce que c'est là-bas que l'on vivait. Et je ne voulais pas venir ici. Je suis sûre que j'y retournerai.
Sa mère la coupe. Tu y reviendras, c'est sûr, mais pas comme une réfugiée. Il faudra certes du temps pour reconstruire une nouvelle vie, mais tous le disent, rien ne peut être pire que Bachar. Et ils n'en doutent pas, plus personne ne les forcera à prendre le chemin de l'exil.
Le choix de France Info, signé ce matin, Marie-Pierre Véraud. Et à 7h10, c'est l'heure de France Info Monde. Bonjour Nicolas Taillard.
Bonjour.
Nouvelle rencontre avec le président ukrainien organisée à Londres aujourd'hui. Volodymyr Zelensky va s'entretenir avec Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz, les dirigeants français, britanniques et allemands qui veulent montrer leur solidarité infaillible avec Kiev.
Quatre dirigeants unis dans l'adversité en ce moment. Si c'était une traversée en mer, on dirait volontiers qu'ils prennent un grain et de forts vents contraires. À la fois un isolement criant, mais aussi cette impression d'être cerné entre menaces militaires russes d'un côté et de l'autre, ces attaques idéologiques venant de l'Amérique de Trump, dont la stratégie de sécurité nationale, un document publié vendredi dernier, marque une rupture historique avec ses alliés. Totalement écartés des négociations lancées ces dernières semaines par la Maison-Blanche, les Européens semblent passer leur temps à tenter de tirer la manche du président américain pour l'éloigner du chemin tracé par le Kremlin. Et malgré les trésors de précautions pris depuis un mois par Volodymyr Zelensky pour caresser Trump dans le sens de la mèche, voilà le président américain qui lui assène une nouvelle pique, lui reprochant cette nuit de ne pas avoir lu la proposition de paix négociée avec Moscou par ses protégés Jared Kushner et Steve Witkoff.
Et l'Europe multiplie donc les signes de soutien à Kiev.
Pour compenser la versatilité américaine et la prétendue neutralité d'autres grandes puissances, la Chine ou l'Inde, par exemple, qui ont balayé l'idée de stopper leur soutien au Kremlin. Pékin et New Delhi ont tour à tour infligé des camouflets à l'Europe ces derniers jours. Alors qu'Emmanuel Macron lui demandait de faire pression sur Moscou, Xi Jinping a sèchement répliqué, décliné toute responsabilité. Même tonalité chez Narendra Modi, pressé par les Européens de convaincre Poutine, mais qui a préféré la semaine dernière dérouler le tapis rouge au président russe et lui confirmer des milliards d'investissements pour les années à venir.
L'Europe bien isolée, mais qui a encore des leviers.
Et notamment ses avoirs russes, gelés par les sanctions infligées depuis 4 ans à Moscou, un magot désormais estimé à environ 200 milliards d'euros. Et sur cet épineux sujet, la Commission européenne semble avoir trouvé une parade juridique pour utiliser les fonds comme une garantie pour un prêt. Ce sera le point central d'un sommet des 27 prévu dans 10 jours. Dernier levier, pas négligeable, l'opinion publique qui, malgré des signes de lassitude, reste majoritairement favorable au soutien à l'Ukraine. C'est vrai en Europe, mais aussi aux États-Unis, où une étude montre qu'en dépit des positions de Trump, le nombre d'Américains favorables à un appui militaire à Kiev a bondi de 9 points depuis l'an dernier.
France Info Monde avec Nicolas Taillard. À 6h52, ce reportage à présent, l'armée de l'air lève le voile sur le futur service national militaire. Relancé il y a quelques jours par Emmanuel Macron, il va durer 10 mois pour les jeunes de 18 à 25 ans qui seront sélectionnés. Et parmi les sites qui accueilleront bientôt les recrues, la base aérienne d'Orange dans le Vaucluse. L'armée de l'air nous a ouvert ses portes pour une immersion dans ce qui sera le quotidien des futurs volontaires. Mathilde Vinceneux.
Sur la base aérienne d'Orange, les 100 premiers volontaires du service national arriveront en septembre 2026, logés dans des dortoirs, à 5 par chambre, explique l'adjudant Aldo.
Bien sûr, les chambres ne seront pas mixtes, hein, vous vous en doutez bien, ce sera des chambres personnel masculin et personnel féminin. Et les lits au carré, bien sûr, comme vous le voyez. Pas de poster, pas de choses personnelles, des douches et WC communs.
Réveil à 6h, ils seront tout de suite mis dans le bain.
Disons que le coiffeur, passage chez le coiffeur est prévu le premier jour.
Le lieutenant-colonel Yann.
Autre anecdote, on leur retire leur téléphone portable, mais c'est pour être vraiment focus sur cette formation qui sera tout de même un minimum exigeante.
Le premier mois, les jeunes volontaires apprendront les bases du métier de militaire.
Porter l'uniforme, marcher au pas. Le maniement des armes, le fusil d'assaut, les techniques de corps à corps, de combat rapproché, les fondamentaux.
La même formation que pour les jeunes qui ont choisi de s'engager avec combat.
Je me défends contre le bâton.
D'accord. Oui, sergent.
Question ?
Non, sergent.
Entraînement au tir.
Un genou au sol. Feu.
Une fois ce premier mois terminé, les jeunes du service national seront affectés dans l'une des 27 bases aériennes de métropole ou d'outre-mer. Pour exercer un métier, la générale Valérie Gaudin s'occupe du recrutement.
La base aérienne, c'est une petite base vie. On y mange, on y dort, on y travaille surtout. Donc ils peuvent être affectés dans n'importe quel emploi suivant ce qu'ils ont envie de faire. On va les projeter sur plus de 30 métiers différents, effectivement.
Payés 800 euros par mois, les jeunes pourront rejoindre les patrouilles de l'opération Sentinelle, surveiller les aéroports, travailler dans les cantines, les infirmeries et être au plus près des hélicoptères et des avions de chasse avec les mécanos ou les armuriers.
Ils pourront aider l'armurier. L'armurier qui s'occupe en fait de monter les armes, la bombe, armer les canons ou encore changer le siège éjectable.
Ils pourront aussi travailler avec les pilotes d'avions de chasse au poste de marqueur, par exemple, explique le capitaine Valentin, pilote de Rafale.
C'est un emploi qui est totalement ouvert au service national. Il est présent en fait pour aider et faciliter toute la planification et la conduite des vols. Présent avec les pilotes.
L'armée de l'air a déjà reçu 200 candidatures de jeunes pour le service national. Elle espère en former 600 la première année sur la base aérienne d'Orange et sur celle d'Evreux.
Reportage France Info, Mathilde Vinceneux.
Il est 6h56 sur France Info, il fait 8 à Grenoble.
Et avant une météo complète, c'est l'heure de la playlist Diane Ferchit avec une marraine exceptionnelle.
Et ce n'est pas moi qui le dis, mais toute l'équipe du Téléthon à propos de la chanteuse Santa, aussi investie ce week-end que la marraine fée de Cendrillon. Et c'est vrai qu'elle a réussi à faire briller les yeux des jeunes participants grâce à sa générosité et à la magie de sa voix.
Allez, viens!
Interprète de popcorn salé qui a versé très exactement 99 999 euros à la cagnotte pour la recherche contre les maladies rares et génétiques. C'est très précis car le 9, Jérôme, c'est son chiffre fétiche porteur selon elle d'espoir. Une si grosse somme versée par un parrain de l'événement, c'est du jamais vu. Santa qui s'est aussi investi auprès des familles d'enfants malades et qui a vraiment donné de sa personne.
36, 36, 36, 36, 36.
Voilà, ça c'est le cri hein, poussé par Santa quand elle est Vous l'entendez, elle est descendue en tyrolienne de la Tour Eiffel. Elle s'était engagée à le faire si les 20 millions d'euros de dons étaient dépassés avant 13h samedi. Et au total, ce sont plus de 83 millions qui ont été récoltés durant ce Téléthon cagnotte qui va sûrement encore augmenter puisque vous pouvez faire des dons au 36-37 et sur Internet jusqu'à vendredi. Voilà, Santa qui est actuellement en tournée. Prochaine date d'ailleurs, ce sera le 17 décembre au Zénith de Paris.
Je ne sais pas combien vous avez versé, mais je sais que vous avez versé votre larme. Diane Tirchy, ça vous ressemble tellement.
Oh bah c'est tellement beau.
La météo.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Et pendant ce temps, la pluie se déverse sur le nord.
Mais oui, il pleut encore. On a des dernières pluies. Alors, beaucoup moins que ces derniers jours et surtout hier. Nous avons encore des pluies un peu plus continues vers la Bretagne, vers les côtes de la Manche également. Elles s'évacueront quand même en fin de journée. On a le vent qui va se renforcer en Manche. Les nuages resteront assez présents sur une petite moitié nord du pays. Nous avons surtout entre Paris et le nord, en Alsace également, pas mal de nuages avec quelques pluies. Mais là, c'est vraiment anecdotique. Plus au sud, le soleil va s'imposer jusqu'en centre-Val de Loire et jusqu'en Bourgogne. Il est déjà établi du côté du sud du pays où les températures sont assez fraîches. 5 à Toulouse contre 14 à 15 degrés en Île-de-France sous les nuages. Nous aurons cette grande douceur qui va de nouveau s'installer dans le sud avec près de 20 degrés près des Pyrénées.
Voilà, et tout cela un 8 décembre, il faut le rappeler. Bienvenue à tous sur France Info. Dans ce 6-9, il est 7h. Bonjour William Gay-Costa.
Bonjour.